RFI, 8h30 à Paris, 7h30 en temps universel.
RFI Matin.
Et le journal avec vous, Arthur Ponchelet.
Et à la une, elles auront mis 24 heures à réagir. Les autorités françaises se sont exprimées hier au lendemain de l'annonce du Tchad qui veut mettre fin à l'accord de défense entre les deux pays. Paris prend acte de la décision et entend poursuivre le dialogue. N'Djamena, comment réagit-on ? Reportage dans un campus de la capitale dès le début de ce journal. Et s'il permettait de faire toute la lumière sur le massacre de Tiaroy ? Presque 80 ans plus tard, des documents inédits ont été retrouvés par des historiens sénégalais. Ils achèvent une visite de 10 jours en France et vous l'entendrez, ils ont notamment déniché des actes de décès de tirailleurs sénégalais tués par l'armée française le 1er décembre 44. Au sommaire également, on évoquera le changement de numérotation téléphonique au Bénin, l'insécurité alimentaire qui touche 38 millions de personnes en Afrique de l'Ouest, et puis de la musique pour finir, direction le Maroc et le festival Zaman, un oasis aux portes du désert pour défendre les traditions locale. L'annonce a pris tout le monde de court. Le Tchad a déclaré jeudi soir mettre fin à sa coopération de défense avec la France. Annonce faite quelques heures seulement après le départ du Tchad du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Après 24 heures de silence, Paris a fini par réagir. Le Quai d'Orsay prend acte de la décision tchadienne et entend poursuivre le dialogue. Réaction aussi ce matin à N'Djamena. Notre correspondante Nadia Ben Mafoud est allée à la rencontre des étudiants de l'école normale supérieure de la capitale. Reportage.
Une rupture synonyme de libération. C'est l'état d'esprit qui règne majoritairement dans la capitale et que Mahamat, étudiant en histoire militaire, partage.
Chaque pays est libre de faire son choix de coopération. Et alors le Tchad a décidé de rompre cette relation. C'est que la relation n'est pas gagnant-gagnant.
Un déséquilibre qui mène à la rupture, mais ce n'est pas une première entre les deux pays, rappelle Sali Bakari, enseignant au département d'histoire de l'ENS.
Si on fait un regard rétrospectif dans l'histoire politique du Tchad, vous allez vous rendre compte que sous le Conseil supérieur militaire, le Tchad avait demandé aux troupes françaises de quitter.
Ça, c'était en 1976, c'est ça ?
Dans les années 76, oui. C'est quand même une décision qui va dans le sens du discours panafricaniste qui a cours au sein de la jeunesse africaine.
De nombreux jeunes tchadiens appellent à un rapprochement avec la Russie. Olivier est étudiant en sciences politiques. Il y est favorable à condition qu'il apporte plus de sécurité dans son pays.
Aujourd'hui, moi, je dis non à la France. Et je ne sais pas si peut-être avec la Russie, il y aura de sécurité. Et dans le cas où la Russie continue comme la France, c'est fort possible qu'on dise non aussi à la Russie.
Malgré cette décision, le ministère des Affaires étrangères tchadien réaffirme que les liens d'amitié entre les deux pays ne sont pas remis en question. Nadia Ben Mafoud, N'Djamena, RFI.
Le camouflet est d'autant plus grand pour Paris qu'il intervient quasiment au même moment qu'une autre décision, celle du Sénégal. Il n'y aura bientôt plus de militaires français dans le pays, a déclaré Bassirou Diomaye Faye, le président sénégalais qui s'exprimait devant plusieurs médias français, multiples interviews, alors que le 80e anniversaire du massacre de Tiaroy approche. Dans le même temps, un comité d'historiens sénégalais achève une mission de 10 jours en France. L'historienne Rokaya Fall a annoncé la découverte de nouvelles archives et plus précisément de nombreux actes de décès en provenance de l'hôpital principal de Dakar. De nouveaux documents qui pourraient contribuer à répondre à la question toujours ouverte du nombre de tirailleurs tués par l'armée française à Tiaroy le 1er décembre 44.
Le fait d'avoir trouvé ces actes de décès, déjà, c'est quelque chose d'inédit. Les recherches jusque-là ne connaissaient pas l'existence de ces actes de décès. Et cela a été possible parce que nous avons pris une autre approche. On a été dans les communes pour voir un peu ce qu'on pouvait glaner par-ci, par-là. De là où sont partis les tirailleurs, vers le nord de la France, Morlaix, ensuite les camps de Rennes, les camps de Versailles, La Flèche, tout ça, si on essaie de mettre le nez un peu dans ces documents-là, on peut trouver des documents qui, jusqu'alors, ont été inédits.
L'historienne Rokaya Fall au micro de Léa Lisa Westerhoff. Le Sénégal où Macky Sall ne siégera pas dans la nouvelle Assemblée nationale qui doit démarrer ses travaux lundi. Il l'a annoncé dans un communiqué publié sur X, l'ex-président qui était en tête de liste de la coalition d'opposition Tacou Walou et qui vit au Maroc depuis qu'il a quitté le pouvoir en avril, démissionnera de son mandat de député à l'ouverture de la prochaine législature. Le Bénin change de numérotation téléphonique. De 8, les numéros passent à 10 chiffres. Il va falloir mettre à jour son répertoire. Le système était tout simplement arrivé à saturation. Le nouveau offre désormais une capacité de plusieurs dizaines de millions de numéros et garantit une disponibilité pour 50 ans. Alors comment faire la bascule? Mode d'emploi avec Jean-Luc Aplogan.
Les millions d'abonnés béninois n'ont pas été surpris. Ils connaissaient la date du nouveau plan de numérotation. L'organe de régulation des communications et les opérateurs GSM ont démarré très tôt leur campagne d'information. Certains l'ont annoncé avec un coup de gant, comme cela se fait pour porter le message d'un roi à ses administrés.
Uzwa janu we queen e mino yilo menale sinuwa donambewedo azang bango.
Le nouveau plan de numérotation démarre le 30. 17 comédiennes dans ce spot d'un opérateur de téléphonie mobile et chaque fois que vous composez un numéro du Bénin, un message vous informe.
Pour vos prochains appels, faites précéder le numéro de votre destinataire de 01.
Tous les numéros doivent être précédés du 01, quel que soit l'opérateur. Les anciens numéros à 8 chiffres vont s'éteindre dans un mois, le temps de la transition. La première conséquence pour les abonnés est d'actualiser leur répertoire téléphonique. Des applications gratuites sont à disposition pour une conversion automatique des contacts. La transition ne s'est pas faite sans perturbation. 48 heures avant, plusieurs services d'un opérateur GSM étaient indisponibles, mais l'opérateur avait prévenu. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
38 millions, c'est le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire et nutritionnelle aiguë cette année en Afrique de l'Ouest. Chiffre révélé par l'Alliance Sahel. Alors comment lutter contre ce phénomène? Pour Pierre Janin, chercheur à l'Institut de Recherche pour le Développement, il faut mettre l'accent sur la souveraineté alimentaire.
La souveraineté alimentaire présente plusieurs dimensions qui sont intrinsèquement liées. Il y a la question d'une meilleure rémunération et de prix plus justes pour les producteurs. Il y a aussi la question de la manière dont on construit ses propres politiques sans être sous contrôle, sous influence d'un agenda international. Il y a aussi la question de la valorisation des produits locaux, des savoir-faire de transformation agricole. Donc ça présente plein de dimensions, bien au-delà de la seule question de la production suffisante pour faire face à une demande alimentaire qui est elle-même déjà diversifiée. Produire plus de riz, plus de mil et de sorgho n'a peut-être pas de sens dès lors que les conditions même de production ne sont pas toutes présentes. Donc c'est un ensemble de mesures qui s'enchaînent pour remporter ou cette bataille de la souveraineté agricole alimentaire.
Produire localement, c'est bien, mais est-ce que c'est possible de vivre uniquement de ce qu'on produit chez soi?
Dans un contexte globalisé, c'est très difficile. Ça me semble être même une quête vaine, à mon avis, politiquement. Mais en attendant, ça peut être rémunérateur électoralement, puisque ça porte et ça fortifie peut-être certains discours nationalistes par tous ceux qui ont cette envie de produire, consommer local et de valoriser leurs propres ressources agricoles.
Pierre Janin, qui est aussi spécialiste des questions agricoles et alimentaires en Afrique subsaharienne, il répondait à Penaï Traoré. Interview à écouter en intégralité aujourd'hui dans l'émission Un jour au village à partir de 13h10, temps universel. Il est 9h38 à Johannesburg, 3 mois après les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. L'Afrique du Sud célébrait ses 12 médaillés hier, cérémonie au palais présidentiel. Le président Cyril Ramaphosa a notamment remis le bouclier de Jupiter à 2 athlètes, la plus haute distinction sportive du pays. Reportage de Valentin Hugues.
Dans la cour du palais présidentiel, ornée de fleurs et de drapeaux sud-africains, règne une ambiance de JO. Sur les écrans, on revisionne les exploits des athlètes médaillés. Des athlètes présents aujourd'hui, vêtus de leur survêtement national vert et érigés au rang de héros par le président Cyril Ramaphosa.
Aujourd'hui, on ne célèbre pas seulement nos médailles, mais aussi notre pouvoir de résilience. Nous sommes un pays qui a été forcé de lutter, mais aussi une nation d'espoir. Un espoir que nous avons tous au plus profond de nos cœurs.
6 médailles olympiques et 6 médailles paralympiques pour l'Afrique du Sud. Tatiana Smith a obtenu l'or Or, en brasse, c'est l'athlète sud-africaine la plus titrée.
Même 3 mois plus tard, on continue à célébrer les Jeux Olympiques. C'est incroyable. J'ai l'impression d'être de retour dans l'équipe à la maison. C'est tellement précieux pour moi parce que j'ai pris ma retraite depuis.
Comme Tatiana Smith, Pumelo Mlongo, médaillée d'or en para-athlétisme, a aussi reçu ce grand bouclier de Jupiter gris qu'il tient fièrement sous son bras gauche.
Je n'ai pas envie de le quitter. Je crois que je vais dormir avec. Recevoir la plus grande distinction sportive de la main du président, moi qui viens des townships, jamais je n'aurais pu l'imaginer.
Pour continuer à rassembler le pays grâce au sport, l'Afrique du Sud rêve de former une délégation de 350 sportifs pour Los Angeles, presque 2 fois plus qu'à Paris. Valentin Hugues de retour de Pretoria, RFI.
On termine ce journal au Maroc et en musique, direction Mamid El Rizlan pour le festival Zaman. 3 jours pour défendre les traditions locales dans cette commune aux portes du Sahara. Au programme, des concerts et des conférences sur les problématiques de la zone où le désert gagne du terrain. Notre envoyé spécial Guillaume Thibault a assisté à la cérémonie d'ouverture. Reportage.
Au soleil tombant sur ces dunes majestueuses, la foule s'est retrouvée. Des enfants aux doyens, toute génération rassemblée, emportée par les chants et les rythmes traditionnels, une volonté du fondateur du festival Zaman, Ali Nusbaï.
Le nom Zaman, il est un nom arabe, un nom tamashek, ça veut dire la période glorieuse, comment on peut refaire vivre ces traditions et surtout les chants traditionnels.
Alignés, dressés fièrement sur des chameaux, symbole aussi de cette idée de dépasser des frontières tracées sur le Sahara, Mohamed est le représentant de ce groupe de chanteurs venu de Tizint, dans la province de Tata.
C'est un type de traditionnel qui s'appelle Chamara. C'est tout simplement pour protéger votre racine et votre tradition.
Au cœur de la danse et de la transe, venu écouter les jeunes musiciens de la zone, le musicien nigérien Omar Abambino Mokhtar, fier que ce son du désert, porte un message.
Rien que la musique qu'on fait, ça fait le bonheur pour les jeunes, ça amène la paix, ça amène la cohésion. Il y a plusieurs manières de développer une région sans violence.
Bambino sera sur la scène du Festival Zaman ce dimanche. Guillaume Thibault, Mamid El Rizlan, RFI.
Et c'est à Mamid El Rizlan que s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la dernière partie des RFI Matin, c'est avec Julien Coquelle-Rohen.
Merci Arthur Ponchelet, bonne journée à vous.